9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Michel Fourniret est mort lundi en emportant la plupart de ses secrets. Grand reporter, Alain Hamon a enquêté sur lui pendant de nombreuses années. Il est le seul journaliste à avoir entretenu une correspondance avec le tueur en série. Il est l'un de mes invités ce matin. Il y aura également Vladimir Cosma, le compositeur de la bande originale du Grand Blond avec une chaussure noire. Et il sera sur scène cet été pour interpréter ses plus célèbres musiques de film. Et l'on commence tout de suite avec le conflit israélo-palestinien qui a repris de plus belle cette semaine. Alain Dikoff fait de la sociologie politique sur ce sujet depuis des décennies. Il est en direct avec nous. Bonjour Alain Dikoff.
Bonjour.
Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'État d'Israël et le conflit israélo-palestinien. Le plus récent s'intitule d'ailleurs « Le conflit israélo-palestinien ». 20 questions pour vous faire votre opinion. C'est paru chez Armand Collin. Alors, ce conflit repart de plus belle. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau de la situation, mais telle que vous la voyez, Alain Dikoff ?
Alors, c'est vrai que le conflit connaît un moment de réactivation relativement intense. Tout ça a finalement été le résultat d'une série de d'événements qui se sont succédés depuis le début, plutôt le milieu du mois d'avril. D'abord confiné à Jérusalem, et tout cela lié essentiellement à des intentions de certains groupes juifs nationalistes de reprendre possession de maisons occupées depuis par des Palestiniens à Jérusalem-Est. Donc tout cela a suscité une effervescence dans la ville sainte. Et puis en début de semaine, on a passé un peu un stade supérieur avec le début des tirs de roquettes du Hamas à partir de la bande de Gaza, non plus seulement autour, dans le pourtour immédiat de la bande, mais bien au-delà, vers Jérusalem, Tel Aviv et même le centre du pays. Et donc voilà, avec l'intervention de l'armée à travers des bombardements en riposte du côté israélien.
Vous parlez de nationalistes juifs. Ce sont des nationalistes véritablement religieux. Hein. C'est une sorte de nouveau sionisme, d'ailleurs, vous dites.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui se sont développés progressivement après la guerre de 1967. Donc la guerre de 67, dite des six jours, a précisément permis à Israël de prendre possession de la Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem et de ses faubourgs immédiats et de la Cisjordanie et de Gaza. Donc les territoires de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie étaient jusqu'alors jordaniens. Hein, ils avaient été annexés par la Jordanie en 1950, à l'issue de la guerre de 1948. Donc vous voyez, il faut toujours remonter un peu aux origines, c'est-à-dire en 48. Donc en tous les cas, ces nationalistes juifs religieux se sont renforcés à partir du milieu des années 70, animés par une idéologie qui est de nature, on pourrait dire, un peu messianique, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la présence des juifs doit être développée sur l'ensemble de la terre d'Israël, et en particulier à Jérusalem et dans les villes dites saintes, en particulier, enfin l'autre importante, c'est la ville de Hébron, dans laquelle il y a aussi souvent d'ailleurs des heurts entre la population palestinienne et des colons juifs. Donc c'est cette idéologie s'est considérablement renforcée et elle a profité aussi d'un climat depuis maintenant une quinzaine d'années où la gauche est un petit peu en déconfiture, et elle s'est renforcée ce faisant, et le parti de Benjamin Netanyahu, le Likoud, qui est un parti de droite plutôt conservateur au départ, a été gagné, au moins dans certaines de ses franges, par cette idéologie hyper nationaliste.
À ne pas confondre avec les ultra-orthodoxes. Hein. On peut être un nationaliste religieux sans être un ultra-orthodoxe et vice-versa.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que les ultra-orthodoxes, qui sont, pour les auditeurs, en général assez faciles à reconnaître, et pour tout le monde d'ailleurs, puisqu'ils sont habillés en général, pour les hommes en tous les cas, en noir de la tête aux pieds, avec un chapeau sur la tête dont la forme peut un peu changer selon les groupes auxquels ils appartiennent, mais grosso modo c'est un peu la tenue réglementaire, si je puis dire. Eux ne sont pas dans ce courant sioniste religieux. Hein. Les sionistes religieux sont, d'un point de vue de style, si je puis dire, en engagés dans la vie ordinaire, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ont des activités soit privées, soit publiques, alors que beaucoup d'ultra-orthodoxes ne travaillent pas, mais sont étudient finalement la Torah, le judaïsme un peu du matin au soir. Donc les sionistes religieux sont engagés dans la cité, si je puis dire. Ils font donc aussi l'armée, et ça c'est important, ce que les ultra-orthodoxes ne font pas. Mais en revanche, ils sont favorables finalement à une idéologie qui unit le nationalisme et une sorte de judaïsme un peu politisé, on pourrait presque dire, à la différence justement des ultra-orthodoxes qui sont en fait un peu, pour utiliser un terme un tout petit peu savant, quiétistes, c'est-à-dire ils ne sont pas engagés dans la vie politique active.
Et vous parlez de nouveau sionisme parce que le sionisme des origines était beaucoup moins religieux que ça, c'était politique.
Ah, incontestablement, non seulement il n'était pas religieux, mais à certains égards, au moins dans ses branches les plus extrêmes, il était même clairement anti-religieux, puisqu'il considérait que c'est précisément la posture passive du judaïsme qui avait été pour les juifs en diaspora un problème majeur, et que donc il fallait réengager les juifs dans l'histoire, et ça devait se faire un petit peu comme les autres peuples au XIXe siècle le faisaient, c'est-à-dire sur un nationalisme grosso modo de facture séculaire. On pourrait dire, évidemment, là, tout le monde a en tête au moins ce qu'était le kibboutz. Bah, le kibboutz, c'était quelque chose qui, à l'évidence, n'était pas religieux, hein, puisque c'était plutôt une sorte de commune à la mode un petit peu soviétique, hein, finalement, mais sans dimension religieuse du tout. Ça, c'est vraiment le passé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type de configuration en Israël.
Alors, côté palestinien, c'est la même chose, hein. Le Hamas, on peut dire que c'est un mouvement nationaliste religieux. Il tient Gaza depuis 2007. Là aussi, c'est très différent de l'OLP de Yasser Arafat, hein, qui n'était pas religieux.
Alors en effet, il y a un peu un jeu en miroir en fait du côté israélien d'un côté, du côté palestinien de l'autre, parce que du côté palestinien également, le Hamas qui a donc été officiellement créé en 1988 est une sorte de prolongement du mouvement des frères musulmans, qui est un mouvement beaucoup plus ancien qui avait été créé dans les années 20 en Égypte, mais qui ensuite essaimé dans l'ensemble du Proche-Orient. Donc cette branche des frères musulmans en Palestine est, elle aussi, elle était pendant longtemps dans une posture, je dirais, plutôt passive politiquement, évidemment en joignant les musulmans palestiniens à devenir plus religieux, mais sans avoir un agenda politique. En 88, c'est ça qui change, c'est-à-dire qu'ils s'engagent aussi dans la lutte, à l'époque, dans ce qu'on appelait la première intifada, et à partir de ce moment-là, progressivement, avec des hauts et des bas, on peut dire que, à partir, en tous les cas, des années 2000, leur audience s'est accrue. Pourquoi à partir des années 2000? Parce que dans les années 90, le mouvement un peu rival, qui est le Fatah, à l'époque dirigé par Yasser Arafat, avait choisi la voie de la diplomatie et donc de la reconnaissance d'Israël, en pensant que cela pourrait conduire à l'avènement d'un État palestinien. Malheureusement, pour tout un tas de raisons, ces négociations n'ont pas été fructueuses. Donc, quelque part, le Fatah n'a pas pu, donner ce qu'il avait promis, un État. Et ça a évidemment profité à leurs concurrents islamistes, dont le discours était, dès le départ, très clair sur ce point, qui était de dire « nous n'obtiendrons jamais rien par la négociation et il faut poursuivre la résistance, y compris par des moyens militaires, ce qui inclut évidemment aussi par moment le terrorisme ». Et cette stratégie, finalement, a été poursuivie avec une sorte de régularité par le Hamas. Et évidemment, aujourd'hui, en lançant des roquettes ou des missiles sur Israël, il est tout à fait cohérent avec l'ensemble de sa démarche.
On fait une pause, Alain Dikoff. On se retrouve dans 1 minute 40.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Alain Dikoff. Alain, on peut dire que la diplomatie depuis 20 ans, elle est complètement au point mort, hein, sur le conflit israélo-palestinien.
Oui, je dirais que ce qui a tué la démarche diplomatique, c'est à l'évidence la seconde intifada, donc qui a duré de 2000 à 2005 et qui a été caractérisée par une très grande violence des deux côtés. On se souvient des attentats suicides du côté palestinien jusque dans les villes israéliennes, dans les autobus, etc. Et de l'autre côté, une répression très très violente de l'armée israélienne pour y mettre fin. Et je dirais que une fois cette intifada terminée, la diplomatie n'a plus jamais pu reprendre ses droits, d'autant moins que du côté si du côté palestinien les choses n'avaient pas bougé, puisque Mahmoud Abbas, successeur de Yasser Arafat, a poursuivi dans la même veine. Du côté israélien, en revanche, on peut dire qu'il y a eu un durcissement politique avec l'avènement de Netanyahou à partir de 2009, donc qui est toujours au pouvoir aujourd'hui et qui avait mis très clairement une croix sur ce processus de négociation, dont une partie assez importante de sa propre formation politique, mais et surtout l'extrême droite qui commençait là à se renforcer ne voulait absolument pas. Et il y a eu aussi le développement tout récent qui a été évidemment la présidence de Donald Trump, qui a été une présidence extrêmement pro-israélienne et qui a complètement abandonné en fait la logique diplomatique de ses prédécesseurs. Donc tout ça pour dire qu'en effet on est dans une impasse prolongée depuis maintenant en effet 20 ans.
On peut dire aussi que la cause palestinienne n'a plus guère de supporters. Les Palestiniens se retrouvent très isolés aujourd'hui.
Alors, je pense qu'il faut évidemment, il faut distinguer entre les États et les opinions publiques. Mais c'est vrai qu'au niveau géopolitique, il est indéniable que, en tant que question politique, hein, la question palestinienne a été marginalisée au Moyen-Orient. Si on regarde l'évolution du Moyen-Orient au cours des 20-30 dernières années, il y a eu une sorte de déplacement du centre de gravité du Moyen-Orient vers le Golfe. Hein. Il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu l'invasion du Koweït, il y a eu les différentes guerres qui ont conduit les États-Unis en Irak, par exemple. Donc, et puis évidemment la question iranienne, hein, la question iranienne qui est devenue la question centrale pour la plupart des régimes arabes. Et tout ça a fait en effet qu'une question palestinienne qui en plus, comme je le disais auparavant, semblait ne pas pouvoir trouver de solution, eh bien que cette question ait été marginalisée au niveau des États arabes en particulier, même si elle reste vivace évidemment dans les opinions publiques de façon générale, hein, qui reste évidemment sensible au sort des Palestiniens, et vous trouvez cette sensibilité dans la plupart des pays arabes au niveau des populations, mais au niveau des régimes c'est différent, ce qui explique d'ailleurs que au cours de l'été dernier, des nouveaux pays arabes finalement aient franchi le cap en faisant la paix avec Israël, comme les Émirats arabes unis, comme le Bahreïn et comme le Maroc, qui certes avaient déjà eu des relations un petit peu officieuses, mais qui là, cette fois-ci, a vraiment établi des relations en bonne et due forme avec l'État d'Israël. Donc, c'est quelque part un indice du fait que le règlement de la question palestinienne n'était plus une précondition à la normalisation avec Israël, en fait.
Aujourd'hui, plus personne ne croit à la solution des deux États dont tout le monde s'était fait le champion au cours des décennies. Alors, il reste la solution à un État, c'est-à-dire que aussi bien la bande de Gaza que la Cisjordanie soient littéralement annexés par Israël et tous les Palestiniens, du jour au lendemain, se retrouveraient israéliens.
Alors, la solution de l'État unique, en fait, originellement, c'était une solution qui a pu être défendue par certains militants plutôt de très à gauche, hein, qui imaginaient un État qui ne serait dans le fond ni juif ni arabe, mais un État unique pour l'ensemble de ses citoyens. Bon, c'est une idée qui n'a jamais eu beaucoup d'écho, beaucoup de relais, sauf dans certains milieux intellectuels et dans certains groupes, mais relativement marginaux en termes de nombre. Mais ce qu'on voit plutôt pointer du doigt de facto aujourd'hui, c'est un autre type d'État unique en réalité. C'est un État dans lequel entre la Méditerranée et le Jourdain, il n'y a plus, à l'exception de Gaza, qui est quand même sous contrôle du Hamas, c'est quand même de façon assez claire depuis 2006 et qui pourrait peut-être continuer à le rester de cette façon. Mais pour le reste, l'idée serait, en gros, en effet, qu'il y aurait de facto un État unique avec des citoyens israéliens, juifs et arabes d'un côté, dans l'État d'Israël tel qu'il avait été dessiné en 1948, et dans le reste, c'est-à-dire pour l'essentiel donc en Cisjordanie, des Palestiniens qui seraient à la fois peut-être sous l'autorité palestinienne, mais aussi quelque part liés à l'État d'Israël. Mais là, ça pose évidemment toute la question de leur statut véritable. Et pour beaucoup, finalement, cette idée d'une sorte d'État unique de facto, c'est en fait un État profondément inégalitaire où les Palestiniens resteraient dans une position de subordination et très très loin d'une égalité citoyenne. Mais ça pourrait peut-être, les Palestiniens pourraient peut-être en quelque sorte retourner cet État de facto en militant pour demander des droits plein et entier, comme les Juifs israéliens. Et là, évidemment, ça poserait un sérieux problème, je pense, aux autorités israéliennes si des revendications de ce type-là émergeaient du côté palestinien.
Merci Alain Dikoff d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, Le conflit israélo-palestinien, 20 questions pour vous faire votre opinion. C'est paru chez Armand Collin. On se retrouve dans un instant avec Alain Hamon.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Le tueur en série Michel Fourniret est mort lundi à l'âge de 79 ans. Il avait été condamné pour 8 meurtres, mis en examen pour 4 autres, mais on ne connaîtra jamais en réalité le nombre de ses victimes. Alain Hamon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, vous avez suivi pendant de nombreuses années le dossier de Fourniret, vous lui consacrez un chapitre entier de votre dernier livre, Bonjour, on vient pour l'affaire, qui est paru aux éditions JPO dans la collection dirigée par Jacques Pradel. Quelle a été votre réaction en apprenant la disparition de cet assassin? Vous êtes le seul journaliste à avoir entretenu avec lui une correspondance. Hein, on y reviendra dans un instant.
Ma toute première réaction, vraiment, ça a été bon débarras. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, on ne dit pas ça. On dit pas ça de la mort de quelqu'un, fût-ce un criminel. Mais ouais, ça a été ça. Mais bon débarras pour des tas de raisons, quoi, je veux dire. Parce que c'est quand même le seul tueur en série. C'était pas le premier dont je m'occupais. C'est quand même le seul tueur en série. Alors bon, je suis loin du malheur des familles de ses victimes. N'exagérons rien non plus. Mais enfin, je constate que c'est le seul qui, jusqu'ici, je sais pas si ça va cesser, me faisait rêver à toute cette histoire. De temps en temps, je me réveillais, pas des cauchemars, hein, des rêves. C'est-à-dire, je me remettais en situation dans des endroits où nous sommes allés pour enquêter sur lui, dans des endroits où on fouillait des trous insondables pour trouver les restes de ses victimes, etc., etc. Donc voilà, pour moi aussi, c'était une espèce de soulagement, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir touché le fond avec ce client, si je peux m'exprimer ainsi.
En même temps, il y a tellement de zones d'ombre qui restent.
Oui, il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent. D'ailleurs, dans la même collection, chez JPO Éditions, dans la même collection dirigée par notre ami Jacques Pradel, mon confrère de l'Union...
Philippe Dufresne.
Philippe Dufresne, lui, s'est penché dans son ouvrage sur, justement, les cold cases. Mais enfin, cela dit, bon, moi, je fais toujours attention à ce genre de truc, vous savez, parce que... Bon, on peut toujours ajouter des cold cases aux cold cases.
Qu'est-ce que c'est que les cold cases? Il faut que vous expliquiez pour...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire des affaires non élucidées. Alors bon, on peut toujours en rajouter de mois en mois et d'année en année. Mais d'abord, Fourniret ne sera plus là pour répondre à certains d'entre eux si la justice finit par mettre son nom sur ces dossiers-là, si la justice continue à instruire ces dossiers-là qui, pour l'instant, n'ont pas été reliés à Fourniret. Il y en a une quarantaine et il y en a 14 qui sont enquêtés. Bon, jusqu'à preuve du contraire, son nom n'apparaît pas pour l'instant. Est-ce que ça va continuer? Et puis en plus, maintenant, c'est terrible à dire, mais Monsieur Éric Mouzin, le père d'Estelle, que j'ai de temps en temps au téléphone, Claude Domès, le père de Marie-Angèle Domès, m'ont tous dit, hier encore, au téléphone, ils m'ont dit, vous savez... juger Monique Olivier la complice, oui, ok, d'accord, mais enfin, comme elle aussi n'a pas pu donner l'endroit où étaient les restes de nos enfants, très franchement, qu'est-ce que ça peut nous faire, quoi. Donc, vous voyez, si en plus on rajoute des affaires non élucidées pour travailler pendant des années et des années et n'arriver à rien, vous vous rendez compte, en plus, l'espoir que ça peut faire naître dans des familles de gens qui attendent depuis des années une explication à la disparition d'un des leurs. Donc voilà, bien sûr, il laisse pas mal d'interrogations, beaucoup d'interrogations même. J'ai dit hier que c'était sa dernière victoire. En fait, sa mort, parce que il était très très mal depuis pas mal de temps, mais
très mal, vous voulez dire malade. Hein.
Ouais, il était très malade physiquement, psychologiquement, c'est-à-dire que bon, il avait un Alzheimer qui était en train de lui prendre la tête complètement, c'est-à-dire que au début, quand il disait qu'il se souvenait pas de certaines choses, il jouait avec la justice et avec les enquêteurs. Et puis là, depuis 6 mois à peu près, quand il disait qu'il ne se souvenait plus, c'est qu'il se souvenait vraiment plus. Moi, j'ai dit que c'était sa dernière victoire parce que en fin de compte, il a presque tout gagné, quoi, je veux dire. Il a été arrêté en 2003, il a avoué en 2004. Le seul moment vraiment où il a fléchi, c'est devant les enquêteurs belges, où il a avoué ses premiers crimes. Et puis après, il les a emmenés assez facilement tout de même jusqu'aux dépouilles. Et puis après, dès qu'il a été confié à la justice française, il est allé de victoire en victoire, une de ses plus importantes. Si on retire sa mort et son départ en douce, l'une de ses plus importantes étant le procès de Charleville-Mézières en 2008, c'est lui qui a tenu le procès à bout de bras. Il répondait quand il voulait, à qui il voulait, il répondait aux questions qu'il choisissait, et c'est-à-dire qu'il en choisissait pas beaucoup. C'est lui qui a gagné le
procès de Charleville-Mézières. Même s'il a été condamné à cette occasion à la perpétuité.
Bien sûr, hein. Perpétuité, pour la première fois, une des rares fois, perpétuité incompressible. Mais bon, on attendait de ce procès, tout le monde attendait des réponses à ce qui s'était passé. Fourniret n'a jamais apporté ses réponses, comme il n'a jamais. Alors après, on a dit, là, ces deux dernières années, on a dit, ah, il y a une juge à Paris, la juge Kéris, très, très bonne magistrate d'ailleurs, qui a fini par lui faire avouer. Bon, alors d'abord, les aveux de Michel Fourniret sur l'affaire Estelle Mouzin, faut quand même savoir que c'est, en gros, hein, j'ai pas le PV sous les yeux, mais enfin, en gros, c'est, oui, maintenant que vous me le dites et que vous me montrez la photo de cette adolescente, je pense que elle a disparu, c'est peut-être bien à cause de moi, j'ai peut-être quelque chose à voir en effet, bon, tout en creux, des aveux en creux, et puis surtout, je suis désolé, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont pas des aveux circonstanciés, puisque il a jamais dit où étaient les restes d'Estelle Mouzin, ouais. comme les restes de Marie-Angèle Domès. C'est pour ça que les deux papas, pour eux, c'est terminé, quoi, je veux dire.
Alain Hamon, on fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de cette correspondance que vous avez entretenue avec Michel Fourniret.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Alain Hamon, grand reporter qui a passé de nombreuses années sur le cas de Michel Fourniret, qui nous a quittés cette semaine, lundi dernier, à l'âge de 79 ans. Cette correspondance, alors que vous échangez avec Fourniret, expliquez-nous les circonstances. Comment ça a commencé ?
Alors écoutez, à cette époque, et je le suis toujours d'ailleurs, je suis responsable d'une agence de presse qui est spécialisée dans les faits divers, la justice, la police, les affaires criminelles. Et donc, d'abord, on se précipite en 2003 à l'arrestation de Fourniret, qui a tenté d'enlever une adolescente et laquelle a réussi à s'échapper. Donc, on fonce en Belgique parce que, à l'époque, on travaille sur deux autres enfants, deux petites filles, enfin, deux ados, qui ont disparu dans les Ardennes et dont on a retrouvé les corps enterrés dans les bois. Mais là, il n'y a pas de Michel Fourniret. Michel Fourniret n'existe pas. Donc, on se dit, tiens, voilà un type qui a essayé d'enlever des fillettes. Est-ce qu'il n'aurait pas à voir dans cette histoire-là? Donc on fonce. Et on se retrouve à Dinan, à la PJ. Déjà là, en 2003, il n'y a pas grand-chose. On voit Michel Fourniret rentrer, sortir, encadré par des policiers. Il est interrogé, mais il ne dit rien d'intéressant. Le commissaire Fagnard, lui, est persuadé qu'il tient un tueur en série. Et en revanche, à force de harceler l'un des avocats belges de Fourniret, cet avocat nous dit un jour, écoutez, bon, ça suffit, maintenant, soyez gentil si vous posez-lui les questions directement, si vous voulez des explications, moi j'ai pas que ça à faire, écrivez-lui, peut-être bien qu'il vous répondra, vous savez. Bon. Et donc, bah, du coup, à l'agence de presse, on désigne l'une des nôtres, parce qu'on se dit, tiens, une femme, quand même, c'est peut-être mieux pour Fourniret. Et on fait écrire cette jeune femme, et elle lui envoie une lettre sans se cacher qu'elle est journaliste, hein, mais elle ne dit pas qu'elle travaille avec une dizaine d'autres reporters, et elle va commencer à lui écrire, et il va répondre, très rapidement, il va répondre. Mais alors bon, les lettres de Michel Fourniret, c'est quelque chose, hein. Ça peut être un charabia indescriptible, ça peut être des engueulades, parce que les gens de presse, ils apprécient pas beaucoup. Et puis ça peut aussi être des pseudo-rêveries sur les auteurs français, les grands auteurs français. Je me souviens que dans une de ses lettres, il nous expliquait que, alors d'abord il aimait pas les gens de presse, mais enfin il avait adopté le surnom que lui avaient donné les journalistes à l'époque, c'est-à-dire que dans ses lettres il s'appelait LMDA, LMDA pour le monstre des Ardennes. Ça avait l'air de lui aller, bon, très bien. Et il nous expliquait dans une de ses lettres que LMDA se passait de la télévision avec grand plaisir. Et là, il avait mis dans sa lettre, comprenez, si Flaubert avait eu la télé, est-ce qu'il aurait écrit Madame Bovary? Et il ajoutait, je crois pas, peut-être eût-il joué au PMU, allez savoir. Bon, voilà, des lettres de Fourniret, ça peut être ça. Et puis, non seulement il lit les passages entiers des grands auteurs, mais il les commente. Et puis, après les avoir commentés, il nous expliquait que de temps en temps, il réécrivait parce que, oh, quand même, hein, il y avait certains d'entre eux qui avaient des problèmes de syntaxe, hein, quand même. Hein, voilà. Bon. Ça, c'est Michel Fourniret. Alors,
un égo surdimensionné, donc, mais toujours décrit comme obsédé par la domination. Ça se sentait dans ses lettres?
Ouais, parce que il essayait, pas à tous les coups, mais il a essayé à plusieurs reprises de dominer, entre guillemets, notre journaliste, par l'écrit. Il a essayé de la manipuler, il a essayé de la dominer. Bon, alors, heureusement, ce qu'il ne savait pas, et je peux dire qu'il s'en est pas aperçu, hein, ça c'est sûr, ça se voyait au ton de ses lettres. Ce qu'il savait pas, c'est que pour lui répondre, on faisait une conférence de rédaction, on était six. Quoi. Bon. Et donc, croyant qu'il avait affaire à une seule jeune femme, fut-elle journaliste, eh bien, il a essayé plusieurs fois de la dominer, en effet, et de la manipuler. C'est pour ça que c'est, pour la jeune femme en question, c'était pas forcément un exercice toujours facile. Hein. Je l'ai vu pas lire à la lecture des réponses de Fourniret, je l'ai vu parfois pas lire. Hein. Et la domination, c'était son truc, mais d'ailleurs, il l'a avoué par la suite, en 2004, quand il a fini par avouer, parce que Monique Olivier venait de tout lâcher, il a avoué que ce qu'il aimait à un moment donné de ses crimes, c'était dominer sa victime, c'est-à-dire la dominer avant de la violer, quand il y arrivait, parce qu'il n'y arrivait pas toujours, la dominer juste avant de la tuer, pour qu'elle ait vraiment peur, et ça, alors là, ça lui plaisait beaucoup, et puis après, bon, bah, il l'a tué. Donc la domination, oui, bien sûr, mais même la domination au travail, c'était lui le plus fort, c'était lui, nous, on a rencontré tous ses potes de boulot et tout le truc et tout, ils nous ont dit que c'était un excellent ouvrier spécialisé, un excellent régleur, mais enfin...
Un régleur sur machine, hein.
Ouais, il était régleur sur machine, ce qui dans les années 60, 70, c'est quand même un boulot d'ouvrier spécialisé très 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 qualifié. Bon, mais ses copains de travail, notamment dans l'Indre-et-Loire, nous ont expliqué que d'abord fallait pas lui marcher sur les pieds, et puis deuxièmement, c'était lui le plus beau, le plus fort. Dans sa seconde famille, seconde épouse, trois enfants, un garçon et deux filles. Un jour, une des petites avait pris un bonbon un peu trop vite. Il allait distribuer des bonbons, mais elle a fait plus vite que lui. Elle a pris un bonbon un peu trop vite sur la table de la salle à manger. Elle s'est retrouvée attachée à la niche du chien, quand même. Bon, bonjour à la domination. Hein. Fourniret, c'était aussi ça, oui, bien sûr.
Merci Alain Hamon. Je rappelle votre dernier livre. Un chapitre y est consacré à Michel Fourniret et à sa correspondance d'ailleurs. Ça s'intitule « Bonjour, on vient pour l'affaire ». C'est paru aux éditions JPO dans la collection dirigée par Jacques Pradel, tout comme le Fourniret, le livre de Philippe Dufresne auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. 17 ans d'enquête pour Dufresne et les journalistes à l'Union, justement dans les Ardennes. Merci Alain Hamon. On se retrouve dans un instant avec un compositeur, c'est Vladimir Kosma.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Vladimir Kosma.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous ferez l'ouverture le samedi 24 juillet du festival Mille et une notes, un festival qui se tient dans le Limousin du 24 juillet au 7 août à Saint-Priest. Torion. Le samedi 24 juillet, donc, vous dirigerez l'orchestre de chambre ostinato et plusieurs solistes qui interpréteront vos plus célèbres musiques de films, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Chèvre, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, La Boum, L'As des As, mais aussi le concerto de Berlin que vous aviez composé pour la 7e cible avec Lino Ventura et le concerto pour mandoline que vous allez créer à cette occasion. Est-ce que vous êtes content de remonter sur scène? Vous n'avez pas trop souffert depuis le début de la pandémie?
Écoutez, je suis content. Mais j'ai un peu peur, quoi. Est-ce que j'arriverai jusque-là? Je tiendrai debout? Est-ce que je ne vais pas m'écrouler?
Vous pétez de santé, là, devant moi.
Oui, enfin, c'est une apparence.
C'est une apparence.
Mais enfin, comme il n'y a que les apparences qui comptent, ça va.
Exactement. Ouais. Alors, pour moi, Vladimir Kosma, vous êtes un peu plus jeune qu'Ennio Morricone et Michel Legrand. Surtout, vous êtes vivant, ils ne le sont plus, malheureusement. Mais,
voilà.
Mais vous appartenez à cette génération qui a révolutionné la musique de film dans les années 60, en sortant des cadres, au fond. Parce que les cadres, jusque-là, c'était la musique symphonique depuis les années 30, depuis King Kong. Je crois que c'était le premier film qui avait fait une musique de film qui était une musique symphonique. Et puis ensuite, il y a eu le jazz à partir du milieu des années 50. Et puis tout à coup, avec les années 60, vous sortez de ce cadre-là, vous changez tout, j'ai l'impression. Je ne saurais pas définir ce que vous avez fait exactement, mais vous avez tout changé. Est-ce que vous le savez?
Écoutez, je ne le sais pas exactement. Je sais ce que j'ai fait moi-même, personnellement. J'ai considéré que la musique de cinéma n'existe pas en tant que genre de musique. Mais c'est de la musique, oui. Personnellement, pour moi, la musique de La Boum, la musique de Rabbi Jacob ou la musique du Grand Vent, c'est pas de la musique de film. C'est de la musique qui s'écoute avec les oreilles. Et à la rigueur, elle peut être mise sur un film et peut aider, peut participer à ça. Mais c'est pas spécifiquement une musique de film. C'est pas une musique descriptive. C'est pas une musique illustrative.
Voilà. Il y avait des tendances à cette époque-là. Quand vous débutez, vous êtes très jeune à ce moment-là, hein, ça doit être en 1968-69, vous composez la musique d'un film qui s'appelle Maldon. Tout le monde a oublié Maldon.
C'est ma première musique de film.
Eh ben voilà, elle est formidable.
Voilà.
Et elle a recours aux vocalises. C'est d'ailleurs Christiane Legrand que l'on va entendre dans un instant. À une époque où justement Morricone, Legrand, beaucoup d'autres, vous faites tous des vocalises à ce moment-là. C'est typiquement de la musique de film pour moi. Vladimir Kosma, personne ne se souvient de ce film, cette musique est merveilleuse, elle suffit à nous transporter.
Mais voilà, donc c'est pas une musique illustrative, c'est pas une musique qui raconte autre chose que de la musique, c'est de l'art abstrait, quoi. C'est ça la musique. Alors, c'est très amusant que vous venez avec cette musique parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe actuellement avec cette musique. Il y a un groupe américain qui s'appelle Logic, qui est un des plus grands groupe de disc jockey américains qui ont pris cette musique et ils ont fait un succès mondial. C'est-à-dire que c'est des millions et des millions de disques vendus. C'est extraordinaire. Depuis quelques mois, ce qui se passe avec cette musique. Je ne savais pas, je sais pas si vous étiez au courant.
Non, je n'étais pas au courant, mais ça ne m'étonne pas tellement. Elle est prégnante, cette musique. Voilà. Je l'ai souvent en tête, si vous voulez. La question que j'avais envie de vous poser également, Vladimir Cosma, c'est quelle est la différence entre une musique de comédie et une musique de drame ? Ça, on voit bien que c'est un drame. C'est un polar, hein, sûrement, quelque chose comme ça. Une musique de comédie, c'est autre chose. Alors ça, c'est quoi ? C'est une question de tonalité ? C'est une question d'orchestration, de tempo ? C'est pas une question d'instrument. On peut mettre n'importe quel instrument sur une musique de comédie,
oui,
ou une musique de drame.
Absolument. Non, vous savez, la musique symphonique, la musique en général, s'exprime beaucoup plus facilement et beaucoup mieux dans le genre dramatique et dans le genre romantique, dans le genre film d'horreur ou musique d'horreur, que dans la comédie. Si vous regardez dans le répertoire général, global de la musique, vous allez voir très peu de compositeurs qui ont écrit de la musique où l'on sourit, où l'on rit, etc. On les compte sur les doigts d'une main, Rossini, un peu de Mozart, et puis c'est fini, quoi. Il n'y a pas. Mais des musiciens qui ont fait de la musique douloureuse, romantique, qui vous poignante, etc., il y en a des flopés. La différence, c'est qu'il n'existe pas de musique comique. Vous voyez, la musique qu'on appelle comique, moi, j'ai été pendant des années catalogué comme le compositeur de la musique des comédies à la française, des grands. Et je n'ai jamais fait de la musique comique. Ouais, je ne considère pas que le Rabbi Jacob, c'est une musique comique.
Mais le Grand Blond, par exemple, on va en écouter quelques notes. Oui, tout de suite, c'est souriant.
C'est souriant, mais ce n'est pas comique.
Il y a une légèreté, il y a une nonchalance.
C'est une musique de danse, c'est une. Dans le rythme d'une danse roumaine qui s'appelle Sirba. Et voilà, c'est on danse, c'est, on est gai, on est joyeux, tu vois, mais on n'est pas dans la comédie, on n'est pas dans la.
C'est un métier qui rend modeste, non ? Compositeur de musique de film, on vous demande de composer de la musique pour 17 secondes, pour 22 secondes, et puis c'est de la musique qui a priori est destinée à accompagner des images. Elle devrait en être indissociable, même si les vôtres sont devenus tellement célèbres qu'on peut les écouter, et c'est ce que vont faire d'ailleurs tous les auditeurs et les spectateurs du festival Mille et Une Notes, mais en même temps c'est un travail capital, parce qu'on sait très bien qu'on aurait beaucoup moins pleuré au cinéma sans la musique. La musique est souvent pour beaucoup.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je suis modeste. Ceci dit, j'ose prétendre et croire que la musique n'a pas besoin ni de texte, ni d'image, ni de rien du tout, si elle est bonne, pour exister et pour être écoutée. Maintenant, elle peut accompagner beaucoup de choses. Vous savez, les leads de Schubert sont écrites sur des textes sublimes de Goethe et autre chose. Ceci dit, les textes peuvent être lus sans la musique de Schubert, et la musique de Schubert, elle est superbe sans les
paroles. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne comprend pas l'allemand. Donc
voilà. les opéras de Mozart ou de Rossini, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, c'est miraculeux, ce mariage-là. Mais si vous voulez, plus les strates artistiques s'additionnent, plus l'œuvre gagne en richesse, quoi. Donc, il y a la poésie, il y a la musique, il y a la peinture, il y a tout ça qui se met ensemble. Bien, ça fait un grand boom, quoi.
Merci Vladimir Cosma. Le samedi 24 juillet, donc à Saint-Priest-Thorion, vous serez en concert en ouverture du festival Mille et Une Notes. Et les 15, 16 et 17 octobre, vous serez à Paris, au Grand Rex.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. Rendez-vous demain matin à 9h. Après le journal de 10h, vous retrouverez Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Sébastien, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. Eh bien, on va parler bien entendu du conflit israélo-palestinien et son risque de contagion en France. On parlera aussi des régionales. Pas moins de 5 ministres envoyés en PACA face à Xavier Bertrand et au Rassemblement National. On analysera cette stratégie d'Emmanuel Macron un an avant la présidentielle.
Merci Sébastien, bonne émission.
Merci.